Benjamin Louvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez OFI Asset Management. On va parler avec vous des matières premières. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur ce sujet. On en est où justement sur ce marché? Est-ce qu'il y a des nouveautés? On pouvait s'attendre peut-être, même certains l'envisageaient, d'une reflation et que ça puisse aussi se passer sur les matières premières. Pour l'instant, le constat qu'on fait.
Alors, pour l'instant, je dirais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a le marché des métaux précieux qui se porte plutôt pas trop mal depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il y a eu cette thématique de la reflation qui est apparue. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que les taux d'intérêt réels, donc corrigés de l'inflation, restent faibles. Et un des gros reproches qui est fait à l'or, notamment par les investisseurs institutionnels, c'est que l'or ne rapporte rien, n'a pas de rendement comparé à une action qui a un dividende ou à une obligation qui a un coupon. Simplement, maintenant, depuis quelques mois, voire quelques années, on a des obligations qui ont un coupon négatif. Et c'est ce que nous, chez OFI Asset Management, on a appelé la théorie de la relativité. Finalement, l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien, ce qui fait que l'or retrouve de l'attrait auprès des investisseurs. Et puis, il faut bien avouer qu'il y a eu des incertitudes politiques, le Brexit, l'élection de Donald Trump. En France, aujourd'hui, un certain nombre de personnes se posent des questions. Et l'or redevient un hedge naturel, une protection naturelle pour ce genre d'événement, sans parler des foyers de tension géopolitique un peu partout dans le monde, que ce soit la Syrie, que ce soit aujourd'hui la Corée du Nord, la mer de Chine. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude qui font que l'or retrouve un peu son rôle de valeur refuge. Alors, sur les autres matières premières, plus industrielles, on va dire le pétrole et les métaux de base, là, il y a un petit peu plus de. Disons que ça marque le pas, parce qu'effectivement, on a quelques inquiétudes aujourd'hui sur la croissance aux États-Unis. On attend les chiffres du premier trimestre aux États-Unis. On va voir ce que ça donne, mais il y a quelques inquiétudes. Et puis, sur le pétrole, il y a eu le gros problème du développement des pétroles de schiste ces dernières années qui ont amené à craindre que le marché soit surapprovisionné, ce qui a amené l'OPEP en fin d'année dernière à décider de réduire sa production.
Oui, on pouvait s'attendre peut-être justement au premier trimestre ou au premier semestre de cette année à un changement. Il y en a qui l'envisageaient. On n'en est pas encore là.
Alors ça prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est assez normal en réalité, parce que juste avant de mettre en place cette réduction de production qui a été mise en place à partir du 1er janvier, les pays de l'OPEP ont essayer de vendre le maximum de pétrole qu'ils pouvaient avant d'arriver à la date fatidique de la mise en œuvre de cette réduction. Quand vous chargez un bateau en décembre, dans le golfe Persique, il lui faut 45 jours à 60 jours pour rejoindre le port de l'acheteur. Et donc, bah, les stocks ont continué à augmenter. Il faut savoir aussi que nous, en Europe, on a un peu de mal à voir ça, mais la période de l'hiver n'est pas la période où on consomme le plus de pétrole. Dans l'année. La période où on consomme le plus de pétrole pendant l'année, c'est pendant l'été, parce qu'il fait très chaud dans les pays du Moyen-Orient, ils utilisent beaucoup de pétrole pour la climatisation, et donc on consomme normalement 1 million à 1 million et demi de barils de plus par jour au moment de l'été. Donc les stocks se sont regonflés, je dirais presque comme d'habitude à cette saison. Il va falloir voir ce qui commence à se passer maintenant. On voit les stocks qui commencent à diminuer aux États-Unis, et ce phénomène devrait s'accélérer, ce qui nous fait être assez optimistes sur les prix du pétrole pour la fin de l'année.
Oui, pardon, il y avait un scénario 2017 initial qui était quand même de se dire le pétrole bon marché, c'est presque fini parce que justement il y avait d'abord ce changement aux États-Unis qu'on a mentionné et puis l'économie mondiale se portait un petit peu mieux. On voit qu'en Chine ça va un peu, ça va mieux aussi. Donc il y avait des éléments, on va dire, factuels qui amenaient normalement les investisseurs à penser que ça allait peut-être aller plus vite la hausse.
Oui, et puis il y avait surtout le fait que vous parliez des États-Unis. Il y a maintenant aux États-Unis une nouvelle source de pétrole qu'on appelle le pétrole de schiste. Et les pétroliers de schiste ont beaucoup communiqué sur la réduction de leurs coûts de production qui permettait, selon eux, de produire à 40 dollars, 35 dollars. On a même entendu parler de 30 dollars le baril. C'est aujourd'hui toujours le discours ambiant. Nous, on est relativement sceptiques. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'une grosse partie des gains de productivité qui ont été faits par les pétroliers de schiste au cours des 2 années passées sont en fait des gains conjoncturels liés au fait que, comme il y avait moins d'activité, ils ont pu renégocier à la baisse le coût des contrats de service, ce qui a permis de baisser leur coût de production. Maintenant que le marché repart, le coût des services est en train de remonter. Pour donner un exemple, en 2016, pour fracturer un puits de pétrole de schiste aux États-Unis, il faut du sable. Ça coûtait à peu près 350 000 dollars par an de sable pour fracturer un puits aux États-Unis en 2016. Cette année, on estime que ça va coûter entre 800 000 dollars et 1 million de dollars. Donc les prix remontent très vite. La meilleure preuve que ces gains de productivité n'étaient que temporaires, c'est que si on regarde les coûts de production également des grandes compagnies pétrolières, des Exxon, des Chevron, on constate que ces prix de production ont baissé de la même amplitude que les prix de production des pétroles de schiste. Notre analyse chez OFIAM, c'est donc que les prix des services vont remonter et que les pétroles de schiste ne vont pas repartir aussi vite que ce que l'on pense aujourd'hui, ce que pense aujourd'hui le marché, et que donc on devrait voir le prix du pétrole continuer à remonter, même si ça a pris effectivement un peu de retard.
Au cours des dernières années, on parlait clairement de la Chine, son impact sur le marché et sur le pétrole. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que de ce point de vue-là, il y a eu des changements?
Oui, c'est toujours le cas. Il faut avoir conscience que la Chine a changé profondément et durablement le marché des matières premières. Un exemple, en 2000, la Chine consommait à peu près 15% de la production de cuivre mondiale. En 2016, la Chine consommait pratiquement 50% de la production de cuivre du monde. Donc on a un bouleversement qui est profond et durable. Maintenant, il est vrai que la croissance chinoise a un peu ralenti. Aujourd'hui, un certain nombre de questions se posent sur l'endettement des provinces, l'endettement de l'État, qui font que on voit bien que le régime de croissance a changé aux États-Unis, qu'il va falloir s'adapter. Donc, ils sont toujours un acteur majeur, c'est toujours un acteur qu'il va falloir suivre parce que le prix se fait à la marge dans les matières premières. Et donc, la demande supplémentaire de ce pays va avoir un impact sur le prix des matières premières.
Au-delà d'un événement géopolitique qui est toujours difficile à prévoir, quel est pour vous le facteur déclenchant d'un changement sur ce marché pétrolier à la hausse?
Il va falloir que le marché ouvre les yeux. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le marché ne regarde pas les bonnes informations, ou en tout cas les regarde de travers. Deux informations sont suivies essentiellement par les marchés aujourd'hui. Les stocks aux États-Unis. Et les stocks aux États-Unis ne sont pas un bon indicateur parce qu'en réalité, avec la production des pétroles de schiste, ces stocks augmentent parce que le pétrole de schiste est un pétrole léger qui est finalement assez peu demandé et en concurrence avec d'autres pétroles au niveau international. Ce qui fait que les stocks aux États-Unis augmentent. Si on regarde les stocks ailleurs, simplement les données sont moins visibles et sont publiées avec plus de retard, ce qu'on constate, c'est que les stocks ailleurs ont commencé à baisser et à baisser sérieusement. L'Iran avait fait beaucoup de stockage sur des bateaux pendant la période d'embargo. On a une grosse partie de ces stocks qui aujourd'hui ont disparu, à tel point qu'on se demande si l'Iran va pouvoir maintenir son rythme d'exportation. En Afrique du Sud, il y avait eu des gros stocks qui avaient été faits de pétrole nigérian. Ces stocks sont en train de se vider. Au Japon, les stocks se vident. Donc, on va se rendre compte de la baisse des stocks, probablement pendant l'été, parce que là, les raffineries ont repris leur activité, donc consomment de plus en plus de pétrole, et on risque de voir une accélération sur la baisse de ces stocks. Et puis, la deuxième chose, deuxième erreur que le marché fait selon nous, c'est que le marché se concentre aux États-Unis sur la publication de ce qu'on appelle les rig counts, c'est-à-dire le décompte du nombre de foreuses en activité aux États-Unis. Et ce décompte a très nettement augmenté, puisqu'il y avait à peu près 314 foreuses en activité en fin d'année dernière. Aujourd'hui, on est à presque 688, ce qui laisse à penser qu'on fore beaucoup plus, donc que le pétrole de schiste va repartir très fort. Mais ce qu'on constate, c'est que si le nombre de forages augmente beaucoup, il y a énormément de forages qui après ne sont pas mis en production. C'est ce qu'on appelle les DUC, c'est-à-dire les puits forés mais non complétés. Et ce nombre est aujourd'hui à un niveau record depuis 2013. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces puits ne vont pas produire tout de suite. Pourquoi alors forer ces puits? Vous allez me dire, d'abord, les pétroliers de schiste trouvent des financements aujourd'hui parce qu'il y a une recherche de rendement qui fait qu'ils trouvent des financements privés aussi bien que bancaires. Mais la deuxième raison surtout, c'est que quand vous êtes exploitant pétrolier aux États-Unis, vous devez louer les terres sur lesquelles vous intervenez. Et généralement, vous avez des contrats de location qui sont signés pour 3 ans, avec un potentiel renouvellement, et qui stipulent que si vous ne forez pas un puits, vous perdez votre droit. Alors, vous allez me dire, on pourrait le reporter à plus tard. Sauf que les prix ont explosé dans le secteur des terrains aux États-Unis. Là où un terrain valait quelques milliers d'euros en 2014, aujourd'hui, les prix, c'est 50 fois plus dans le bassin permien, 60 000 dollars par acre pour louer un terrain dans le bassin permien pour pouvoir faire de la production pétrolière. Donc, les foreurs, les exploitants pétroliers, forent les terrains pour pouvoir garder ces droits, mais ne mettent pas les puits en production parce que à 45 dollars, ça n'est pas rentable.
Merci Benjamin Louvet d'avoir fait le point avec nous.
Merci.